Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Lequel d'entre nous n'a pas, un jour ou l'autre, dans sa jeunesse ou dans sa vie professionnelle, été confronté à la difficulté de traduire un texte d'une langue étrangère dans la sienne ? Faut-il traduire mot à mot ? Faut-il respecter le sens littéral ou au contraire ? L'important est-il de faire comprendre le fond, le sens général ? Le sens ou la lettre, la fidélité ou la liberté ? Tout le débat autour de la traduction. Et cette querelle n'est pas nouvelle, comme nous allons le voir, avec mon invité Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'Université de Bari, qui a fait paraître un ouvrage volumineux, « La théorie, la pratique, la philosophie de la traduction ». Et cet ouvrage s'intitule « Traduire en français du Moyen-Âge au XXIe siècle » avec une préface d'Alain Rey. C'est paru aux éditions Hermann Lettres. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard.
Merci d'être à nouveau dans notre studio puisque nous avons déjà fait plusieurs émissions avec vous et autour de vos ouvrages. J'ai trouvé une jolie définition dans votre livre de la traduction. Traduire, c'est rendre l'autre assimilable.
Ah, ça c'est magnifique.
Joli, non ?
C'est très joli et merci de citer cette phrase. Et vous êtes déjà au cœur du problème. Parce que la traduction a comme élément central le dialogue avec l'autre. Ce n'est pas seulement une question de langue. Disons, les linguistes traductologues insistent plutôt sur le passage d'une langue à l'autre, sur comment être fidèle ou ne pas fidèle. À mon avis, sur les traces de quelques personnages beaucoup plus importants que moi, comme George Steiner, comme Antoine Berman, et surtout Henri Méchonique.
Votre maître, Henri
voilà,
Méchonique, que vous citez.
Beaucoup, oui. Et je lui dédie ce livre. Je profite du fait que je suis à Canal Académie pour, disons, rendre hommage aux recherches de ce grand homme de la France.
Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps,
il y a,
je crois.
Le 8 avril dernier.
Donc, en 2009,
voilà,
alors.
En 2009, il est toujours à côté de nous, à côté de moi. De toute façon, on s'entendait très bien. Eh bien, à partir de Méchonique, pourquoi partir de Méchonique ? Parce que Méchonique, dès le début de sa carrière, il y a 50 ans, il a commencé à comprendre que la traduction, c'était autre chose. Ce n'était pas une question de comparaison de langue seulement. De fait, 50 ans après, un Italien très célèbre et très aimé en France, qui s'appelle Umberto Eco, a écrit un livre intitulé « Presque la même chose ». Dire presque la même chose. Et tout est dans ce presque. Presque qui a été utilisé la première fois par un écrivain comme Chateaubriand, qui lui aussi...
Qui a beaucoup fait de traduction, oui, on
voilà, et qui
parfois,
a vécu
oui.
en Italie, qui a traduit Milton, Le paradis perdu. Et donc, si on va au cœur de la traduction, on se trouve non seulement face au dialogue, les autres, peuples, communautés, pays, nations, monde, ailleurs, rêve, mais on est au cœur de la langue. Pourquoi ? Parce que dire traduction, ça signifie dire qu'il y a plusieurs langues, bien sûr. Et poser la question des langues. D'où viennent les langues ? Tout le monde dit que ça vient de Babel. Babel, à un moment donné, on ne se comprenait plus. Et donc, la tour s'est écroulée parce qu'on n'arrivait pas à se passer des ordres. On donnait
«
donne-moi un marteau » et on donnait un autre outil, donc, et tout finit mal. Là, c'est la Vulgata. La réalité, c'est autre chose, justement. Méchonique disait que l'on confond l'origine du langage avec l'origine des langues. Le langage, bien sûr, c'est l'être, c'est l'homme, c'est l'être humain qui, dès qu'il naît, il a un langage pour s'exprimer. N'importe lequel, ça peut être le geste, ça peut être la voix, ça peut être le signe, n'importe quel système serait bon pour produire du langage. Mais les langues, c'est justement l'enchaînement d'une structure linguistique, donc de mots, l'un après l'autre, pour prononcer un message, pour donner un message à l'autre, justement. Et donc les langues naissent à partir du moment où il y a des problèmes, on ne se comprend plus. Deuxième élément que je considère fondamental, c'est que dès que quelqu'un traduit, qui est ce traducteur? Et ça vaut pour n'importe quel type de traduction. Et donc, ce message que l'autre donne à l'autre, et qui a besoin, bien sûr, de structure, de langue, qui est déjà par lui-même une traduction. Parce que nous sommes tous des traducteurs. Moi, je suis en train de parler avec vous, Madame Renard, en ce moment, je ne fais que traduire ma pensée dans l'espoir que
qu'on va vous comprendre.
Et les auditeurs puissent me comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas toujours sûr, même si les Français sont de formidables parleurs, ils connaissent la loi de l'élocution, de l'achèvement des mots et de la rhétorique. Ça, j'ai toujours dit que les Français ont cela. Et on va reprendre ce concept. Donc, j'avais dit presque la même chose. Et le centre du problème est justement ce presque. Pourquoi ce presque? Parce que le traducteur n'est pas seulement un passeur de langue, quelqu'un qui passe d'une langue à l'autre et qui essaye de traduire mot à mot pour arriver au même concept. Tout cela ne signifie rien. La traduction est un acte, à mon avis, culturel, premièrement. Donc, il faut connaître pas seulement les mots, mais des mondes, un monde, plusieurs mondes. C'est des mondes qui dialoguent entre eux. Et encore...
Et c'est un acte de création aussi,
et c'est un acte de création,
finalement.
C'est ce que j'allais dire.
Un acte d'écriture.
C'est que dans cette comparaison d'un monde à l'autre, le traducteur est celui qui crée, qui fait de la poésie. C'est un poète, c'est toute ma thèse au cours du livre, et encore une fois, Méchonic le prouve, par la traduction de la Bible qu'il a essayé d'achever, il n'a pas réussi malheureusement, toute sa vie, en récupérant quoi? En récupérant le rythme ancestral de la langue et des langues. Si on lit les quelques traductions de Méchonic de la Bible, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est Bonnefoy, c'est Baudelaire, c'est Mallarmé, c'est Rimbaud. Et avec ce rythme qui est le rythme d'un peuple, c'est le rythme d'un chant, le rythme d'un voyage. D'ailleurs, Yves Bonnefoy, qui a beaucoup traduit, et on a eu l'occasion de parler à Canal Académie.
Et vous en parlez beaucoup dans votre livre.
J'en parle parce que j'ai fait un livre intitulé « Yves Bonnefoy ou la fabrique de la traduction », traducteur-poète. Et donc, Bonnefoy, justement, parle du traducteur-poète. Pour moi, le traducteur est toujours un poète. Et le poète est toujours un traducteur. Il dialogue entre eux, parce que le poète traduit le monde dans ses poèmes, et le traducteur traduit les messages. Mais il ne peut que le faire dans un ordre de type rythmique et ancestral de la langue. Et justement, Alain Rey, dans sa préface, me remercie, et c'est moi qui le remercie bien sûr, parce qu'il a toujours étudié l'œuvre des 1000 lettrés, qui, lui, c'est une chose qui n'est pas très connue, a essayé de traduire Dante, donc la Divine Comédie, dans la langue française du Moyen-Âge. Donc, c'était très compliqué. Et apparemment, ça apparaissait très paradoxal. Mais pourquoi traduire dans la langue du Moyen-Âge? Au contraire, c'était une recherche du rythme de la langue française du Moyen-Âge, tout juste au même moment où les deux langues dialoguaient entre elles, à tel point que beaucoup de Français écrivaient
en florentin,
et beaucoup d'Italiens écrivaient en français. Si on pense que Brunetto Latini a écrit son célèbre trésor à Provençal, que Marco Polo, donc le grand Vénitien qui a découvert la Chine, y est resté là-bas 20 ans, donc c'est presque à l'origine, ce Vénitien de la Chine moderne, mais il a écrit le Million, son livre célèbre, en français, pas avant, le français du Moyen-Âge, bien sûr.
Alors, Giovanni Dottoli, est-ce que vous avez voulu écrire une histoire des traductions ou une histoire des idées qu'on peut avoir
Merci
sur
de
la
cette
traduction
belle...
ou une histoire des traducteurs? Qu'est-ce que vous avez voulu
les,
faire?
Les deux ou le, les, deux, les
tout
trois.
À la fois, voilà.
En effet, j'avais vu que plusieurs interprètes de la traduction avaient insisté sur le fait qu'on n'a vraiment pas d'histoire de la traduction en France, de la traduction en français, bien sûr. Même si le problème est valable pour tout type de langue. Eh bien alors, comme j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années autour d'un projet fabuleux qui concernait les traductions de l'italien en français du XVIe siècle jusqu'au XXe, j'ai publié la bagatelle de 4 volumes, 16e, 17e, 18e, 19e, qui fait un total de, c'est pas 4000 pages, donc c'est beaucoup. Ça prouve comment l'Italie et la France ont toujours été en dialogue et souvent, ça je le cite entre parenthèses, des textes du XVIe siècle qui apparaissent comme des textes de créativité française ne sont que des adaptations ou des traductions de textes italiens. Donc sur la base de ces matériaux concernant le rapport Italie-France, France-Italie, j'ai récupéré la plupart des idées des écrivains, des intellectuels, des linguistes, des philologues qui ont prononcé leurs mots sur la traduction au cours des siècles.
C'est pour ça que votre livre est en fait organisé de manière chronologique. On commence en effet par la traduction au Moyen-Âge, et puis 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle.
Et
mais on voit que les problèmes, et même
le 21e, parce que là, voilà, j'essaie de penser à l'avenir et de lancer une idée de traduction à l'avenir. Comment sera la traduction à l'avenir? On pense que la traduction à l'avenir sera très technique. Ce sera des dirigeants ou des employés qui sont à Bruxelles, à Strasbourg, l'Union européenne, et puis la traduction à l'ordinateur. Depuis 40 ans, on travaille autour de machines et de logiciels qui puissent traduire automatiquement. Même nous, nous avons désormais sur nos portables, tout le monde a son portable, la possibilité de traduire des phrases.
Mais c'est une traduction mot à mot, ça. Ça ne retraduit pas l'esprit. Ça.
Mot à mot qui ne peut être valable que pour quelques structures fixes. Par exemple, la météo. Il fait beau. C'est la même chose partout, donc tu peux traduire. Il fait mauvais. Il fait du vent. Il fait du soleil, etc.
Donc, il faut que ce soit basique, vraiment.
Voilà. Mais la traduction vraie, c'est autre chose. Elle doit être humaine. Donc, c'est un retour même à l'humanisme. La traduction qui était le dialogue dès le début, retourne au dialogue. Tout en ne refusant jamais les hautes technologies, donc les nouvelles technologies, qui, bien sûr, favorisent ce travail. Alors, je me suis demandé à ce moment-là, c'est quoi la traduction aujourd'hui? Est-ce une science? Est-ce une technique? Est-ce un art? Et j'ai pensé, c'est ma, disons, position finale, que c'est un art. Mais un art réel. On a organisé souvent les esthéticiens tous les arts autour d'un arbre. Des arts, par exemple, on parle de septième art pour le cinéma, et même si on oublie qui a dit cela, et c'est un Italien qui s'appelle Ricciotto Canudo, grand ami d'Apollinaire, Picasso, Stravinsky et Chagall, eh bien, je pense que la traduction pourrait être de nos jours le huitième art.
Ah.
Pourquoi le huitième art? Parce que la traduction réunit tous les arts. Je ne peux pas être traducteur technique qui traduise uniquement, je ne sais pas, un texte de chimie en français. Bien sûr, je dois connaître la chimie, parce qu'autrement, je ne comprends rien. Mais pour être traducteur à plein titre, il faut connaître toutes les disciplines, l'architecture, la chimie, la physique, l'hydraulique, la littérature, la linguistique, le journalisme, etc. Donc, vivre dans la vie et pour la vie. Et là, non seulement vivre dans la vie, mais faire chanter la vie. Justement, Méchonic disait, la traduction doit chanter. C'est un chant, justement, comme la poésie. D'ailleurs, tous les linguistes qui s'occupent de poésie le disent. Quand ils disent que la poésie est comme la musique, c'est un langage universel, il n'est pas important que l'auditeur et le lecteur comprennent le message à la lettre, le message culturel, c'est le son, le rythme qui est fondamental, ce qui transforme le texte traduit en une sorte de 9e symphonie de Beethoven ou 10e symphonie de je ne sais pas qui. Alors la traduction de l'avenir va vers l'art en posant d'énormes questions, en donnant au traducteur un rôle central, en lui reconnaissant définitivement le titre d'auteur. Pendant 10 siècles, on a dit non, ce n'est pas un auteur, c'est quelqu'un qui utilise les textes des auteurs. Non, l'auteur, traducteur, est traducteur poète, traducteur romancier, traducteur journaliste, traducteur scientifique. D'ailleurs, nous avons une preuve précise. Au cours de l'histoire de la langue française, à toute époque, du Moyen-Âge à nos jours, de grands écrivains, de grands créateurs ont traduit. Et ils ont fait des traductions magnifique. Et je cite encore une fois Yves Bonnefoy, qui est vraiment le prince des traducteurs poètes et des traducteurs créateurs.
Mais on pourrait effectivement citer Nerval, qui a traduit Goethe, Nerval, Baudelaire, qui a traduit Alain de Poe, ou Michelet, qui a traduit Vico. Enfin, il y a plein de grands écrivains qui ne rechignaient pas
les
à
grands
se
et
faire
les petits,
traducteur.
Et qui n'ont jamais dit que leur traduction était inférieure. Il suffit de lire la correspondance de Baudelaire, qui écrit tout le temps à sa mère et à ses amis, à l'éditeur Poulet-Malassis, en insistant sur l'importance de la créativité de ces traductions de Poe qui n'étaient pas, disait-il, inférieures aux Fleurs du Mal. Et il avait tout à fait raison. Et Mallarmé dit la même chose. Quand il traduit Poe, parfois le même texte que Baudelaire, il utilise exactement la même pratique qu'il avait appris, disons, comme pratique de la langue.
Donc la traduction genre mineur, c'est terminé, on n'en parle plus. Ça n'est plus un genre mineur, qu'on se le dise, si tant est que ça ne l'ait jamais été.
C'était un genre central comme les autres, donc paritaire avec les autres. Je ne dis pas que la traduction est supérieure, bien sûr. Ce qui prouve que toute la question fidélité ou infidélité, c'est vieux, ça n'existe plus. Au XVIIe siècle, pour présenter l'importance de l'infidélité, on parlait des belles
les
infidèles.
Les belles infidèles. Alors, c'est quoi les belles infidèles? Ce sont des traductions qui ne sont pas très fidèles, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. C'est les traductions. Donc, on joue sur les mots, bien sûr, en passant même aux femmes. Mais j'adore que ces traducteurs soient infidèles et soient charmants comme les textes qu'ils traduisent.
Alors, en lisant votre livre, moi, j'ai appris quelque chose. Que le mot « traduire », il est apparu seulement au XVIe siècle.
Absolument.
Ce n'est pas très récent. Au Moyen-Âge, on ne disait pas « traduire ».
Et à la moitié du siècle, donc autour de Étienne Dolet, qui est un personnage fondamental de l'histoire de la traduction et qui, il ne faut pas oublier, a, disons, probablement à cause de la traduction, ce personnage est mort. Mort brûlé ici à Paris, place Maubert. Parce que en traduisant du grec ou du latin, de façon d'une langue ancienne, il avait ajouté un petit mot de doute, le presque toujours, le presque, voilà qui revient. Et les Sorbonnards ont interprété ce presque comme une négation de l'immortalité de l'âme. Parce que la phrase concernait l'immortalité de l'âme. Et le pauvre, voilà, au bûcher. Donc, on peut mourir même de traduction. Alors, d'ailleurs, tout le monde communiste, là, faisait la même chose. Là, on est mort de traduction, là aussi, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on vit entouré de traductions. Par exemple, actuellement, il n'y a pas de livres, de films, de pièces qui ne soient traduites. On voit des traductions chez les éditeurs de partout, de tous les livres. Donc la traduction, elle a pris de l'ampleur aussi au fil des siècles, peut-être.
De l'ampleur sociale, de l'ampleur culturelle. Et donc, il est temps désormais de redonner au traducteur son rôle réel. Et la traduction demain sera un genre extraordinaire, sera le 8e art. Le traducteur sera un écrivain, même un grand écrivain. Et je propose que le traducteur, qui était linguiste au fond, mais qu'il travaille toujours en alliance avec la poétique. On ne peut pas avoir de traduction, de traductologie ou de science de la traduction sans poétique. C'est cette alliance
inséparable. C'est le traducteur poète.
Voilà, le traducteur poète, même s'il traduit un roman, traduire Madame Bovary.
Oui,
comment
mais il faut qu'il ait le sens des mots,
poète
effectivement.
Comme Flaubert, c'est impossible.
Alors merci Giovanni Dottoli de nous éclairer sur la traduction, sur son histoire à travers les siècles. Et sur les questions fondamentales qui se posent, sur les grandes voies phares de la traduction, car comme disait Gide, on ne s'improvise pas traducteur, mais c'est donc un avenir pour aussi les langues et l'échange entre les langues dont vous aimez tant parler. Donc je recommande votre livre, Traduire en français du Moyen-Âge au XXIe siècle, avec une préface d'Alain Rey, Giovanni Dottoli, c'est paru chez Hermann Lettres. Merci, à bientôt.
Merci Madame Renard, merci Canal Académie, vive Canal Académie.